On cesse maintenant de parler d'Abraham. Abraham n'est plus le centre d'intérêt. C'est pas qu'il a déjà disparu, mais il n'est plus, lui, le centre d'intérêt. Le centre, c'est actuellement, enfin, dans ce paracha-là, c'est Yitzhak et c'est le couple que Yitzhak forme avec Rivka. Est complètement différent du couple que Sarah et Abraham, que Abraham formait avec Sarah. C'est un couple qui, évidemment, est caractérisé par une énorme différence d'âge, surtout si on pense que on parle d'une Rivka qui a 3 ans. Et Yitzhak, qui avait à la Akedah, il avait 37 ans et il se marie à 40. Donc, ça fait pas mal de différence. Et même si on dit qu'elle avait 14 ans ou quelque chose comme ça fait encore aussi une grande différence. Donc, on sait très bien que, enfin, on sait ici que le rapport entre Yitzhak et Rivka n'est pas du tout comparable au rapport entre Abraham et Sarah, dans la mesure où Sarah, quelle qu'était la différence d'âge, je ne la connais pas, mais en tout cas, Abraham et Sarah étaient pratiquement à égalité, quoi. Oui, peut-être une grande différence, mais je ne sais pas. Et on voit qu'ils ont 10 ans de différence à la naissance d'Yitzhak. On donne les âges. Donc c'est pas du tout la même différence d'âge. Et cette différence d'âge, elle ne joue pas de rôle, semble-t-il, entre Abraham et Sarah. Elle est tout à fait acceptable. Elle va jouer un rôle probablement entre Yitzhak et Rivka, mais on va voir qu'il y a d'autres raisons pour que le couple soit d'une certaine manière un peu déséquilibré. En tout cas, ici, la Torah commence tout de suite par présenter Yitzhak, avec tout de suite l'accent sur le fait qu'il était vraiment l'enfant d'Abraham. Alors que les gens essayaient de dire qu'éventuellement son père c'était Avimelech. Donc Hachem a fait en sorte que Abraham et Yitzhak se ressemblaient parfaitement. Donc ça a fait taire les rumeurs. Bon, Yitzhak, on représente les choses. Pour présenter ici. Et Yitzhak et Rivka sont stériles. Et Yitzhak et Rivka vont prier. Prier pour avoir un enfant. Alors, il est, oui, en principe, il était aussi stérile. Et donc, Yitzhak prie pour que sa femme soit enceinte. Et donc, lui, il prie parce qu'elle était stérile. Alors maintenant, si lui, il était aussi stérile, on pourrait penser qu'il prie aussi pour lui. Je ne sais pas pourquoi c'est pas mentionné que il prie pour lui, il prie pour elle, visiblement. Pardon? Oui. Parce que, non, ce que tu dis, c'est que la neshama de Yitzhak, avant la Akedah, elle était féminine. une neshama féminine, et qu'elle n'est devenue une neshama masculine qu'au moment de la Akedah. Donc évidemment, il pouvait pas être un père si sa neshama était complètement féminine. Non, mais je ne peux pas entrer là-dedans parce que je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Et donc Rivka, effectivement, est devenue enceinte. Et puis il se passe quelque chose d'anormal, semble-t-il. Et alors les psukim ne sont pas très faciles à lire, parce que les psukim dévoilent déjà des choses que Rivka ne savait pas éventuellement. Parce que le pasouk dit, dans le pasouk 22, Kavbet, le pasouk de Vayitrotsetsu Habanim. Vayitrotsetsu Habanim, c'est pluriel. Donc on présente déjà les choses comme si elle avait des jumeaux en elle, de Kirba. Et alors que elle s'est demandé, mais moi je veux pas de ça, on va voir ce qu'elle voulait pas, mais donc il y a un problème et elle va consulter. Va-t-elle et Hachem. En fait, elle va consulter Shem ben Noach, qui était un prophète. Ici, ça s'appelle aller consulter Hachem. Consulter le prophète, c'est consulter Hachem. Et il lui dit, Négoïm Bevitner, il dit, mais c'est les jumeaux que tu as dans ton ventre. Donc, on a l'impression qu'elle ne le savait pas. Et les Midrashim qui disent que Rivka a consulté toutes les femmes plus âgées de sa génération, elles ont toutes dit que jamais elles ont eu elles ont eu des manifestations durant leur grossesse qui ressemblaient à ce que Rivka racontait. Ça veut dire quoi? Personne n'a jamais connu de jumeaux, de naissance de jumeaux. Alors bon, on n'a pas d'exemple dans la Torah, il n'est pas marqué d'exemple de jumeaux, en tout cas avant cela. Après, il y aura des jumeaux, mais avant cela, effectivement, la Torah ne recense pas de jumeaux. Elle ne recense pas de jumeaux, mais c'est bien qu'il y avait des jumelles à la naissance de Caïn et Hevel. Caïn et Hevel sont nés avec des jumelles. Caïn avec une jumelle et Hevel avec deux jumelles en même temps que lui. Donc il y avait déjà la jumellité. Alors est-ce qu'on l'a oublié depuis? Je ne sais pas. Ou peut-être que on n'avait jamais eu deux jumeaux. Peut-être qu'il y avait toujours eu une gémellité, mais une fausse gémellité, c'est-à-dire un garçon et une fille. Caïn et Hevel, ce qu'on voit, c'est garçon et fille.
Alors, si c'est une fausse
Et ici, alors, ça dirait, si on dit que Yitzhak à sa naissance, bon, lui, là, il y a aussi un problème de le féminin, le masculin, n'est pas très clair, en fait. D'après ces explications-là, toujours est-il que, effectivement, voilà, maintenant elle est enceinte et on lui annonce qu'elle aura deux jumeaux et que ces jumeaux, en fait, vont avoir des descendances qui seront des peuples. Et puis, elle dit que ils vont se séparer, ils vont s'opposer. Et le grand va servir le petit. Donc, elle est allée au terme de sa grossesse. Et effectivement, alors là, c'est surprenant, mais c'est marqué Vehine Tomim Bevitna. Hein? Mais ouais, il n'y a pas seulement, il y a aussi Manuel Israël. Ça y est. Voilà. François. Pardon?
Si tu parles ici de grand et de petit, c'est que c'est aussi un peu seulement des jumeaux.
Non, même dans les vrais jumeaux, il y en a toujours un qui naît avant l'autre.
Non, non, quand je n'ai pas compté.
Non, oui, alors un aîné. Ouais. Et bon, voilà, le Passouk dit Vehine Tomim Bevitna. Alors, Vehine, c'est une nouvelle chose. Mais on lui a expliqué qu'elle portait les jumeaux. Quelle est la nouveauté? Vehine, ça veut dire qu'elle n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Là-dessus, c'est un peu compliqué de comprendre ce que dit ce verset. Le Rashbam, sur place, il s'est arrêté sur ce Vehine et il a dit « Bechol davar chidush » chaque fois que quelque chose de vraiment nouveau survient. On a l'habitude d'écrire les choses comme ça. Il dit, Vahi Baboker, Veine Ilea. Quand Jacob s'est réveillé le matin, et bien celle qu'il avait prise pendant toute la nuit pour Rachel, il s'avère que c'est Léa. Veine, c'est une nouveauté. Adata, Aya Savour, chez Rachel. Et de même, Vahirkatz, Paro, quand Paro se réveille, Veine Chalom. Il pensait pas qu'il était en train de rêver jusqu'au moment où il s'est réveillé. Il pensait qu'il était dans la vraie vie. Donc, le Rashbam dit, quand il y a quelque chose de nouveau, voilà. Mais en quoi c'est nouveau? Puisqu'on lui a annoncé avant, Shem lui a dit, alors qu'elle était encore enceinte, il lui a déjà dit qu'elle aurait des jumeaux. Alors, en plus, si vous avez un texte devant vous, vous voyez que le mot jumeau, qui se dit teomim, il s'écrit tav aleph vav, même. Et ici, c'est écrit sans le aleph. C'est écrit tav vav, même. Donc, c'est écrit chaser, comme on dit. Et Rashi rapporte, il s'arrête sur ce. Chasser, c'est le fait que s'écrit de façon, oui, d'une telle façon qu'il manque une lettre. En fait. Alors, il dit que, alors que chez Tamar, la Tamar de Yehuda, qui va avoir elle aussi des jumeaux, là-bas, les théomimes sont écrits avec un aleph. Alors, Rashi donne une explication. Il dit là-bas, chez Tamar, les deux enfants vont devenir des tzadikim. Mais ici, un va être un tzadik, l'autre va être un racha. Donc, c'est ça le. Il manque dans la gémellité, en fait. Quelque part, ils ne sont pas tous les deux tzadiks. Donc, quelque chose doit se marquer dans le texte. Donc, ça se marque de cette manière-là. Alors, le fait que le Passouk nous ait dit, quand on nous a dit qu'il priait pour Vayatar Yitzhak Lachem le Noharishto qui a Karahi, donc ici, c'est marqué, on ne nous parle que de la prière d'Yitzhak. Mais en réalité, Rivka aussi a prié. Seulement, on va expliquer que Hachem a répondu à la prière de Yitzhak. C'est marqué dans le verset Vayater Lo. Hachem lui a répondu à sa prière. Velo la, et pas à elle. Donc, ici, on voit clairement qu'elle a prié également, ce qui est assez logique, mais que Hachem a répondu à la prière d'Israël. Et Rashi justifie ce qui, pour nous, apparaît plutôt comme une injustice. Chez Endoma, Tfilat Tzadik, Ben Tzadik, et Tfilat Tzadik Ben Racha, le fichach lo pelo la. A priori, il y a là une justification du fait qu'Hachem a écouté la prière d'Yitzhak, parce qu'Yitzhak est un tzadik, fils de tzadik, plutôt que la prière de Rivka. Rivka est une tzadeket, fille de Racha. A priori, bon, c'est. Alors, premièrement, il y a plusieurs questions. Premièrement, nous, on aurait dit le contraire. On aurait dit que Rivka a bien plus de mérite que Yitzhak, puisqu'elle n'a pas eu d'exemple dans la maison, alors que Yitzhak, il a été élevé dans la maison d'Abraham, donc il a des exemples de prière et de tzidkout. C'est pas difficile pour lui d'être un tzaddik, parce qu'il a vu son père être tzaddik. Tandis qu'arriver à être une tzaddiket, quand on a été élevé dans la maison de menteurs, de l'idolâtre et de roublards, c'est beaucoup plus difficile. Donc, elle aurait normalement beaucoup plus de mérite. Comment se fait-il que ce soit la prière d'Israël qui est entendue? Il y a une deuxième question, c'est que si vous entendez ce que dit le texte dit « Ena doma » Tfilat tzadik ben tzadik, la tfilat tzadeket bat racha. Ça veut dire, on ne peut pas comparer la prière d'un tzadik fils de tzadik, de juste fils de juste, à la prière d'une juste fille de méchant. Si on entend qu'est-ce qui est dit là? Quand on dit on ne peut pas comparer, quel est l'inférieur dans cette phrase? Quand on dit, je ne peux pas comparer A à B. A priori, ça veut dire que A n'est pas à la hauteur de B. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça ne marche pas, non? Si je dis que la prière d'Yitzhak n'est pas comparable à la prière de Rivka, ça veut dire que la prière de Rivka est la plus haute, la prière la plus haute, et que la prière de Yitzhak n'est pas aussi haute, elle n'est même pas comparable. Bon, c'est assez fort de dire c'est pas comparable. Pas comparable, ça veut dire que la différence n'est pas une différence quantitative, c'est une différence qualitative. Et comment, avec une différence qualitative qui va dans le mauvais sens, comment est-ce qu'Hachem a pu écouter la prière de Yitzhak? Alors, à cette question-là, la question de la comparaison, de la non-comparaison, je ne sais pas vraiment répondre. Maintenant, pourquoi est-ce que on pourrait dire que la prière de Yitzhak a plus de, donc peut-être que ça répond quand même à la question, que Yitzhak a plus de mérite? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que chacun, Chacun d'entre nous, chaque personne, doit développer sa voix propre. Chacun doit développer sa façon d'être juif. Bien sûr, ça s'inscrit dans l'ensemble des lois qui gouvernent, qui s'imposent à tout le peuple. Mais il s'agit d'inventer son propre chemin. Alors on peut dire que la difficulté était beaucoup plus grande pour Yitzhak. D'accord? Parce que Yitzhak, il devait inventer un chemin différent de son père et qui n'est pas le chemin de la révolte contre le père en envoyant promener tout ce que le père faisait. C'est-à-dire, il va falloir intégrer ce qu'on a appris du père, en quelque sorte, et puis ensuite, à partir de là, construire quelque chose de propre, quelque chose de personnel. Rivka n'avait pas le choix. Elle était bien obligée d'inventer sa voix. Elle ne pouvait pas inventer, elle ne pouvait pas se suivre, enfin, elle ne voulait pas suivre la voix de son père et de son frère. Et donc, si, du point de vue de la facilité ou de la capacité à inventer son chemin personnel, c'était plus facile à Rivka qu'à Yitzhak. Yitzhak, il devait se faire, on veut dire, il devait se faire un prénom, ayant déjà un nom. Bon, les enfants, souvent, ils pensaient, il y avait la famille d'Abraham. D'accord. Alors, dans le jeu des sept familles, dans la famille Avinu, Abraham Avinu, je demande, il fallait inventer sa propre voix. Yitzhak, effectivement, il est le fils d'Abraham. C'est marqué très fortement ici. Pas seulement pour montrer que ce que racontaient les gens, qu'en fait, il était un fils d'Abimelech, c'était faux. Mais d'un autre côté, être le fils d'Abraham, ça vous rend l'invention d'un vrai chemin, d'un chemin personnel beaucoup plus difficile.
Il a déjà... Parce que je conçois difficilement qu'on compare à Isaac, à partir du moment où il a passé par la Teda, il a fait l'été, le Bola. Donc, il n'est plus, me semble-t-il, dans les...
Alors, vous pouvez très bien dire, allez-y, vous dire que effectivement, sa prière à lui, parce qu'il est un tzaddik et qu'il est encore parti, mais c'est, ça pourrait apparaître comme n'étant que, c'est le comme si son père c'était un arbre et puis lui il est le fruit de son père, donc le fruit c'est mieux que l'arbre éventuellement, mais c'est jamais que la prolongation de l'arbre. Donc lui, il avait, c'est bien ce qu'il a fait. Il a fait, la Torah va nous dire ici dans cette paracha, que, vous savez, Abraham avait creusé des puits. Et quand Abraham n'était plus sur le terrain, ou peut-être même plus vivant, les Plishtim là-bas, ils ont bouché les trous, bouché les puits. Il faut être cinglé. Tu as des puits d'eau qui ont été creusés parce qu'on a besoin d'eau, d'accord, pour ne pas être redevable, pour ne pas, ils veulent en aucun cas, on ne veut pas dire que ça vient d'Abraham, d'accord, ils préfèrent boucher les puits, ils ont dû aller en creuser d'autres ailleurs, ou peut-être qu'ils ont dû se priver d'une partie de l'eau, tout ça. Alors, Yitzhak, lui, il a recreusé les puits d'Abraham. Donc, on voit très bien, il suit, il fait ce qu'on peut, son père a fait. Et quand lui, il les creuse, ben, les autres disent, mais ils sont à nous, ces puits, etc. Jusqu'à ce qu'enfin, il arrive à creuser un puits sur lequel il ne va pas y avoir de dispute. Mais lui, les puits d'Abraham étaient des puits où on pouvait, puiser gratuitement. Les puits d'Yitzhak, pour puiser, il fallait payer. Bon. Je vous rends service, je mets mes puits à votre disposition, mais il faut payer. Donc, ça, c'est la gvoura, c'est la rigueur C'est une autre voie, ce n'est pas le chesed d'Abraham. Donc, vous avez raison, il a déjà, mais ça viendra après aussi, bon, il est en train de construire une autre voie. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que Hachem a écouté sa prière parce que dans cette prière, il y avait justement une nouvelle voie. Ce n'est pas une prière à la Abraham, c'est une prière à la Yitzhak. Rivka, bien sûr, c'est une prière à la Rivka, mais il n'y a pas de prière de Betuel, donc il n'y a pas de difficulté, si on veut, à inventer une prière qui ne soit pas la prière de son père. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Très important parce que, effectivement, la nécessité d'inventer son propre chemin, c'est quelque chose de très important et qui n'est pas, c'est pas toujours bien compris, parce que si on est simplement un copieur, quelqu'un qui copie, même si le modèle qui est copié est un très bon modèle, mais en quelque sorte, tu n'as rien fait, tu n'as rien construit, tu n'as pas fait avancer les choses. On n'a pas avancé, on a piétiné, on fait du surplace. Tu recommences ce qui a déjà été fait. Et c'est pas ça, il s'agit justement, et ça c'est assez difficile à comprendre, les gens s'imaginent que l'important c'est de refaire la même chose que ce qu'ont fait les ancêtres, les parents, etc. Oui, c'est pas qu'il s'agit de rupture complète. Il s'agit bien de on va commencer par recreuser les mêmes puits. Après, on voit que ces gens-là, on ne peut pas leur... Abraham, il a fait les choses, mais à la limite, ça n'a pas marché, quoi, quelque part. Ils ont profité, mais ils n'ont pas voulu avoir de lettre de reconnaissance à l'égard d'Abraham. Donc, ils ont bouché ces puits. Alors c'est exactement la même chose dans l'éducation des enfants et dans l'éducation de soi-même. C'est-à-dire que on doit arriver à être indépendant. Indépendant, ça veut dire je ne suis pas la copie conforme de mon père, hein, ou de mon maître. Je vous ai dit déjà que c'est un grand problème, mais on avait déjà eu parler un peu de cela parce que si vous voulez, l'extrême de la copie, c'est de fusionner avec le père ou avec le maître. Et quand il y a fusion, on ne peut pas transmettre quoi que ce soit. Il faut de l'espace pour transmettre. La Torah, quand elle parle, dit deux personnes qui parlent de Torah et il y a de la Torah entre eux. Il faut que la Torah circule. Et ça ne marche pas par fusion. Quand il y a fusion, il ne s'est rien passé. Et c'est pour ça que les élèves, les fameux élèves d'Abraham et de Sarah, ont complètement disparu. Enfin, leurs enfants ont complètement disparu. Il n'y a plus personne à la génération d'après parce qu'ils ont fusionné avec Abraham et Sarah. Vous avez déjà expliqué ça. Il y a un passouk dans Michelet qui dit Hanoch la Nahar Alpi Darko. Il faut éduquer l'enfant selon sa voie. Selon sa voix, ça veut dire que l'enfant, il a une voix à lui. Et la tâche des parents, c'est d'arriver à découvrir le plus tôt possible la voix de l'enfant et à l'aider à aller dans cette voie-là. C'est-à-dire, il faut le soutenir, il faut lui aider à comprendre lui-même effectivement où est sa voie, lui donner l'occasion de rencontrer sa voie, si on peut parler comme ça, de prendre conscience de sa voix, de sa spécificité. Alors bien sûr, sa voix, elle est... Certaines fois, la voix de l'enfant, elle nous apparaît comme... si je regarde ce qu'il a, la voix que l'enfant a prise, je vois que l'enfant, il s'est révolté. Donc, pourquoi il s'est révolté? Alors, on ne peut pas donner une réponse générale, comme ça, mais il est très possible qu'il se soit révolté parce qu'on l'a mis sur une voie qui ne lui convient pas. Alors, on va voir tout de suite l'enseignement de... Ils sont au moins deux à dire les choses, c'est Rav Hirsch et le Malbim, disent à peu près la même chose. Il y a eu un grand problème, on va lire la suite un peu. Donc, il y a eu ces enfants qui sont nés, qui étaient différents. Et dans le verset 27, tout de suite après que on nous dise, le passage que nous dise comment il s'appelle, Esav, Yaakov, Vasuk dit Vaïgdelou Hanéarim, Vaï Esav Ish Yodéat Saïd Ish Sade, Yaakov Ishtam Yoshem Oalim. Les enfants ont grandi. Alors on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont passé l'âge de la prime enfance, quoi. Ils sont bar mitzvah, si on veut. Ils ont à peu près 15 ans, à peu près, cet âge-là. Et chacun, ils ont pris chacun des chemins complètement différents. Esav, c'est un chasseur. C'est un homme qui vit à l'extérieur et qui s'impose à l'extérieur. Et Yaakov, au contraire, c'est... un homme qui reste dans les tentes, qui reste à étudier. Alors, le Rav Hirsch et le Malbim disent que Yaakov, que Yitzhak et Rivka, ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur. Ils ont éduqué les deux de la même manière. C'est-à-dire, on les a mis au même cheder, au même jardin d'enfants, à la même école. Ça veut dire que l'école en question, la voie en question, c'était la voie adéquate pour Yaakov. Mais quelque part, on a éduqué Esav pour qu'il devienne un Yaakov. Ça n'a pas marché, évidemment. Mais comme Esav était dans une école où normalement il devait se plier à la discipline de ce genre d'école, alors il a appris à mentir, à raconter les choses. Et il a, semble-t-il, en tout cas d'après certains, embobiné son père, en racontant des choses à son père et son... Alors il y a deux grandes écoles dans la lecture de ce texte. Certains disent que Yitzhak savait très bien qui était Esav, et d'autres disent que non, qu'il ne savait pas. Alors le verset dit « Vayav Yitzhak et Esav, Yitzhak befiv » Yitzhak aimait Esav parce que Saïd befiv, il y avait du gibier dans sa bouche. C'est-à-dire, Esav était un chasseur, il ramenait du gibier et il le donnait à son père. Donc son père aimait bien son fournisseur de gibier. Rivka, elle aimait Yaakov. Elle aimait Yaakov. Et par symétrie, dans le verset, on s'attend à une explication du pourquoi elle aime Yaakov, puisque on nous a dit pourquoi Yitzhak aime Esav. Bon, il n'y en a pas. Elle aime Yaakov sans raison, si on peut parler comme ça. Elle l'aime pour lui-même. Alors, il est clair que cette lecture d'un Yitzhak qui aime son enfant parce qu'il lui donne à manger les choses qu'il aime, c'est assez difficile. Quand j'étais plus jeune, j'avais un peu honte. Bon, c'est ça le patriarche, un type qui aime bien manger, c'est un peu compliqué quand même. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous raconte là?
Et ça, c'est bien ce Yaakov.
Pardon?
Il dit qu'il aime son désarme, mais est-ce que ce Yaakov, il est dit dans les textes quelque chose? Est-ce qu'il fait lui aussi un pendant de son amour pour Esav en parlant de l'autre fils et en disant quelque chose?
On ne parle pas du tout du rapport entre Yitzhak et Yaakov.
Tout est bizarre.
C'est pour ça qu'on est là.
Ah, on ne fait pas quand même en disant où il prend la bracha.
Au moment où
Où il prend la bracha, en fait.
on va y venir, on va y venir. Dans le Targum de la traduction en araméen de cette phrase de Vayav Yitzhak et Esav, Yitzhak Befiv, Berivka Ovet et Yaakov, le Targum dit Vayav, donc il dit Veracham Yitzhak Yat Esav, Are Mitzide Aveachil. Il a traduit vraiment, il aimait Esav parce qu'il mangeait le fruit de la chasse de son fils. Rav Volbe, il ramène, il avait dans le shiur de Chumash, il disait, Nora, c'est terrible ça. La Torah, elle fait bien attention, elle entre dans tous les détails. Yitzhak aimait Esav. Pourquoi? Parce qu'il mangeait. Yitzhak mangeait du gibier chassé par Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'aurait pas dû manger de son fils lui ramène des fruits, de produits de la chasse. Il fallait pas manger? Il fallait pas manger? Et manger. Mais du coup, la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? On voit qu'il mangeait. Alors s'il mange, il mange ce qu'on lui a apporté. Yaakov, Yaakov, les œufs au plat qu'il était capable de faire, il ne lui a pas apporté. Parce qu'il n'y a pas besoin.
Pour Israël, c'est très matériel et on se délecte dans
Alors, c'est de ça qu'on
l'impression.
parle. C'est de ça qu'on parle, Claudine. C'est ça. Et donc là, c'est assez terrible. Parce qu'il mangeait, alors la Torah dit, il aimait. Et ça, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
J'ai l'impression qu'on prend la Torah sans dire qu'est-ce que tu penses. Si elle nous dit,
Il faut expliquer quand même ce.
c'est une question sur le
Voilà.
verbe ONF. Je sais que la première occurrence dans le Kodash, il vient aimer, est-ce que c'est
Ah,
une. Moi, je
c'est
trouve que
une
la
bonne
vie a vérité,
question.
une fois qu'elle a
Quoi?
une fois qu'elle a une.
Oui, quand il l'a bien ma tante, c'est vrai. Il l'a amené dans la tente de sa mère, et il l'a épousé, puis il l'a aimé. Donc il y a ici un dic-douc, c'est-à-dire on est allé regarder pinailler en quelque sorte, sur ce que faisait Yitzhak. On peut, en fait, on peut pas imaginer que Yitzhak aimait pour cette, il aimait son fils pour le magret de canard ou le, je sais pas quoi, que son fils lui amenait. Alors, le Rav Volbe, il disait, il y a aussi plein de choses étranges dans cette paracha. Il dit, j'ai l'impression que tout ça, ça vient de ce que la Mida, la mesure caractéristique de Yitzhak, sa Mida, c'est Ira et Lim, la crainte et le Dim. Dans la, c'est le propre de la, ce qu'on appelle Midat Adin, la mesure de Din, justice, attribut de justice, de rigueur, c'est de regarder les choses et de s'arrêter sur toutes les petites différences. Regarder les choses dans le plus grand détail. Et là, c'est comme si on était en train, ça, c'est ce que dit Rav Volbe. Il dit que, il a donc l'impression que, de façon, il dit, mais, dans son subconscient, il y avait quelque chose de, dans l'amour de, d'Yitzhak pour Esav, que Yitzhak ne, si on lui avait demandé pourquoi il aime Yitzhak, il n'allait jamais dire que c'est parce qu'il donne à manger. Mais peut-être que dans son subconscient, si on peut parler comme ça, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, c'est un argument qu'on ne peut faire, qu'on utilisera uniquement pour quelqu'un qui veut vivre à ce niveau d'excellence qui est Midat Hadin. Dans Midat Hadin, on ne laisse rien passer, mais vraiment rien passer. Il y a aussi, il fait remarquer que, par exemple, dans la Akeda, on ne parle que d'Abraham. Mais la démarche d'Abraham, elle n'était pas possible sans la collaboration très, très, très poussée d'Yitzhak. Yitzhak, il a 37 ans. Abraham ne pouvait pas, il ne pouvait pas faire ce qu'il ne pouvait pas sacrifier son fils sans l'accord de son fils. Or, on appelle ça, comme on voit toujours la Akeda, c'est la Akeda d'Yitzhak, mais Yitzhak, c'est la victime en question, mais c'est la grandeur d'Abraham. Pourquoi on ne parle pas du tout d'Yitzhak? C'est la même chose. Ici aussi, cette, toujours cette fameuse Midat Hadin, donc toute la grandeur, effectivement, en passant seulement, comme si ce n'était pas une épreuve pour Yitzhak de devoir subir, en fait, ce que son père voulait faire. Il y a une Gemara dans Maseret Erchin, la Gemara dit, « Il m'allait ba kadosh baruch hu im Avraham Yitzhak ve Yaakov bedin, en yicholim lamod. » Que si Hachem avait jugé, il s'était conduit avec les Avot. Selon la Midat Adin, ils n'auraient jamais tenu. Ils n'auraient pas tenu devant lui. Parce que personne à ce degré de perfection qui trouve grâce à la Midat Adin. La Midat Adin, c'est, on va regarder jusque dans le subconscient. La Midat Adin, elle fait comme si ce n'était pas une épreuve pour Yitzhak. Non, mais justement, la Midat Adin, elle considère que bon, ce n'est pas terrible ce qu'Yitzhak a fait. La Midat Adin, elle ne valide pas. Elle valide la démarche d'Abraham, pas celle de. Et pas celle de. Non, on ne peut même pas dire comme ça. Il faut dire qu'Abraham n'étant pas quelqu'un qui vit au niveau de la Midat Adin, alors bon, c'est normal. On reconnaît qu'il a fait quelque chose de très grand. C'était une très très grande épreuve et il a passé l'épreuve avec succès.
Il a agi, il a parlé sobrement, mais dans la psychologie divine, il a posé sobrement très peu de mots, très peu de choses, et les choses essentielles pour bien faire la mitzvah. L'épreuve, elle est pour Abraham, elle n'est pas pour lui. Lui, il est dans sa émouna, et il doit bien faire la mitzvah. Donc, il dirait, il pose ce qu'on va.
Vous êtes sincère, qu'est-ce que vous voulez dire là? Et il sera qu'il il apprend que c'est lui le corban. Très bien.
Bah, attendez, je ne suis pas une femme, donc déjà, non, moi je ne peux pas digérer. Mais lui, c'est quand même quelqu'un qui c'est quelqu'un. Bah,
le Rav Holloway pense que ici, c'est vraiment la Midat Adin qui fait qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on ne valide pas la démarche, enfin la conduite de Yitzhak comme quelque chose, comme quelqu'un qui a passé une épreuve avec succès.
Le din, c'est pas le juste.
C'est le din. Le din, ça veut dire, on t'a pas. Bon, c'est, voilà.
Le din, c'est le.
C'est pas extraordinaire.
Pas dire le vrai.
Mais c'est pas extraordinaire ce qu'il a fait. On va pas en faire un plat, quoi.
Dans le din, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est
le din. Oui, mais le din, justement, ça veut dire dans. C'est-à-dire que c'est même pas une épreuve, quoi. Pour le din, c'est pas une épreuve. Pour Yitzhak. Parce qu'on n'en parle pas, c'est ça que soulève le Rav Holloway. On n'en parle pas, on ne parle pas d'Yitzhak. C'est-à-dire, on ne peut pas se représenter dans ce monde-ci. Comment fonctionne la Midat Adin? C'est irreprésentable. Ça, c'est ce que dit Rav Holloway. Ça, c'est dans l'hypothèse où on prend le verset, disons, à la lettre, au sens où il aimait vraiment Esav pour cette raison-là. Maintenant, on va voir, on va y revenir quand on va parler des brachot, on va avancer un petit peu. D'abord, il y a un sforno. Un sforno, c'est un médecin italien de la Renaissance, un Talmid Chacham énorme, qui a fait un commentaire de la Torah. Et lui, il dit, il aimait sur le verset. Voyez, Yitzhak était sable. Yitzhak aimait Esav. Parce qu'on nous dit, Gam et Esav. Il aimait aussi Esav. Et il dit, Afalpi, chez Yodéa Blissafek, chez Loaya Shalem, qui est Yaakov. Il n'y a pas de doute que Yitzhak savait pertinemment que Esav n'était pas aussi parfait que Yaakov. Rivka aimait et Yaakov levado, elle n'aimait que Yaakov. Donc le Sfono dit, Yitzhak il aimait aussi Esav. Bien sûr qu'il aimait Yitzhak, il aimait Yaakov, ça va sans dire. Mais il aimait aussi Esav par opposition à Rivka qui elle n'aimait que Yaakov. Elle n'aimait pas Esav. Pourquoi elle ne l'aimait pas? Ipneche et Kira Berishosh, elle est sable. Parce qu'elle avait connaissance de la méchanceté des sables. Le Sforno, il ouvre un peu une fenêtre, un peu dans ce, pour comprendre un petit peu cette paracha qui, par ailleurs, a l'air complètement fermée. Plus bas, quand Yitzhak va bénir Yaakov, de nouveau, le Sforno dit, c'est évident que Yitzhak savait exactement qui était Esav. Sauf qu'il pensait qu'il valait mieux que Yaakov ne s'occupe que des questions spirituelles. C'est pourquoi il voulait donner à Esav la bracha matérielle, parce que on va voir que la bracha qu'il a donnée finalement à Yaakov, mais qu'il voulait donner à Esav, est une bracha complètement matérielle. Tenecha, Ital Hashamayim, Mishmane Haaretz, c'est des brachot sur le matériel. Mais Rivka, elle a compris que si c'était comme ça, le clan Israël ne pourrait pas tenir. Que le clan Israël avait besoin aussi d'avoir une part dans Olam Hazeh, dans ce monde-ci. Et donc, on voit bien, dans le courant de l'histoire, que si les Juifs n'avaient pas eu l'argent qu'ils avaient, ils n'auraient pas pu tenir parmi les goïms, quoi, en fait. Et bien Israël, dans plein d'endroits, ils n'ont réussi à survivre que grâce à leur argent. Il y avait des pays, encore assez récemment, en Russie, en Pologne, etc., en Roumanie, il y avait sans arrêt des décrets anti-sémites. Et les Juifs venaient, ils étaient obligés de corrompre, c'était une corruption qui était attendue par les goïms, en fait, de corrompre toute la liste des gens jusqu'aux gens qui étaient puissants et qui avaient signé les décrets antisémites pour rapporter ces décrets, pour faire annuler ces décrets. Sinon, ce n'est pas possible. Bon, les Juifs ont pu revenir en France, revenir en Angleterre, parce qu'on avait besoin de leur argent. Ils les ont expulsés de France, en Angleterre, on leur a confisqué tous leurs biens, et après, pour revenir, ils ont dû payer, et puis on les a réinstallés dans la situation où ils allaient pouvoir prêter de l'argent et donc éventuellement devenir riches, on pourra de nouveau les expulser et de nouveau saisir leurs biens. C'était un processus. Il y avait des décrets, en tout cas en Pologne et en Russie, qui ont été pris uniquement pour que les Juifs viennent payer pour les faire annuler. C'était des décrets qui n'ont jamais eu pour vocation d'être appliqués. Ils étaient seulement là pour tirer de l'argent des Turcs. Donc c'est vrai que les cadeaux qu'on était obligé de donner, bon, c'est une des voies bon, que Yaakov a choisi pour, dans ses relations avec Esav. Il lui a fait des cadeaux pour l'apaiser. Voilà, aussi, dans la relation avec les goïms, il était nécessaire de faire des cadeaux sans arrêt. Les goïms attendaient ces cadeaux. Ils attendent toujours. En fait, ce que Yitzhak voulait faire, il n'a pas réussi à le faire, mais ce qu'il voulait faire va se faire dans la génération d'après. Dans la génération qui suit, on va avoir dans les 12 tribus, on va avoir 2 tribus qui vont faire ce que Yitzhak voulait faire, voulait que Esav et Yaakov fassent. Yitzhak voulait que Esav se consacre effectivement au côté matériel, voilà, qu'il organise la société, qu'il la dirige, etc. Et qu'il décharge complètement Yaakov de tout souci matériel. Et puisqu'il le décharge des soucis matériels et lui permet d'étudier, automatiquement, il aura une part dans l'étude, en tout cas dans le mérite de l'étude de Yaakov. Ça, c'était ce que Yitzhak voulait. C'est la raison pour laquelle il voulait donner à Esav les bénédictions du matériel pour qu'effectivement il puisse vivre et faire vivre Yaakov qui va développer le côté spirituel des choses. Alors ça s'est fait entre les tribus de Issachar et Zvouloun. La tribu d'Issachar se consacre entièrement à l'étude de la Torah et la tribu de Zvouloun, c'est les marchands, c'est les commerçants, et ils ont un accord avec Issachar. Issachar, tu te consacres entièrement à l'étude. Moi, je t'entretiens complètement. Mais tu me donnes la moitié, effectivement, du mérite de ton limoud, puisque c'est grâce à moi que tu peux étudier. Ça, c'est ce qui s'est fait entre ces deux tribus-là. C'était en vérité ce que Yitzhak voulait réaliser plus haut encore. C'est-à-dire avant, ici, ça s'est fait entre deux tribus, c'est entre deux des 12 tribus. C'est pas à l'échelle de tout le peuple. Ce que voulait faire Yitzhak, c'est que ça marche à l'échelle du peuple juif. Que le peuple juif est une, si vous voulez, presque on peut dire une direction bicéphale avec une direction spirituelle et une direction matérielle. Mais Rivka savait que Esav ne marcherait pas. Elle savait que si on donnait à Esav tout cela, il n'allait pas le mettre au service du limoud, de l'étude de Yaakov. Et au contraire, il allait l'utiliser contre Yaakov. Et le Gaon de Vilna dit que si on n'avait pas eu les brachot, c'est un peu ce que dit le Sforno déjà d'ailleurs, si on n'avait pas, si Yitzhak n'avait pas réussi, si Rivka n'avait pas réussi à faire en sorte que Yaakov reçoive les brachot matériels, donc là Israël n'aurait pas pu subsister. Donc si vous voulez, alors c'est un paradoxe un peu, parce que finalement le clan Israël ne vit que grâce à une ruse, en fait. une ruse imaginée par Rivka. Bon, Rivka qui savait que le problème, si vous voulez, c'est que Rivka, elle avait compris. C'est une des raisons pour lesquelles la communication entre Rivka et Yitzhak était difficile. L'expérience de la Akeda qu'a faite Yitzhak, elle l'a entendue de deux manières. Ou bien Yitzhak l'expérience de la Akeda a fait de lui quelqu'un qui est complètement dans un autre monde, en fait, et qui a aucune idée de la roublardise, de la ruse, du mensonge, etc. Ça ne fait pas partie dans son monde, ça n'existe pas. Donc, éventuellement, il est susceptible de se faire rouler par ça. Ou bien non, il le sait, mais il pense, il a l'expérience qu'il a, bon, c'est, il sait très bien que, mais il pense que, Esav peut s'amender. Il croit que Esav peut s'amender, et Rivka sait que non. C'est pour ça que Rivka ne va pas laisser faire ce que Yitzhak veut faire. Et en fait, lorsque Sav vient et qu'il dit à son père, voilà, je reviens de la chasse, voilà, je t'ai préparé à manger, comme tu l'as demandé, bénis-moi maintenant. Et son père dit, mais j'ai déjà donné ma bénédiction. Et à ce moment-là, Esav éclate, il éclate en sanglots aussi. Il crie très très fort, il a très 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 mal. Mais à ce moment-là, Yitzhak dit « Gam baruch yeh ». Si Yitzhak avait l'impression « Je me suis fait rouler », et je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas donner ma bénédiction, cette bénédiction à Yaakov, il aurait dû dire, je lui enlève ma bénédiction, je le maudis. Il ne dit pas ça du tout. Il dit, ok, c'est bon. C'est bien qu'il ait reçu cette bénédiction. Ça veut dire, explique pas mal de commentateurs, pense aussi le Malbim, ça veut dire que Yitzhak a compris qu'il s'était trompé. Il se rallie à la position de Rivka. Je me suis trompé. Je croyais, il voit bien que Hachem a tiré les ficelles pour que ça ne marche pas, ce truc. Et donc, il comprend. Il comprend que c'est pas jouable. Ce qu'il voulait faire n'est pas jouable. Et ça, il marchera jamais. Il va jamais faire ce que je voulais, ce que Yitzhak voulait qu'il fasse, et que lui voulait, effectivement, qu'ils travaillent ensemble. D'une certaine manière, ils sont jumeaux, pas pour rien. Ils sont jumeaux, ça veut dire qu'en réalité, il faut les voir comme une personnalité. Il ne faut pas les voir comme deux personnes qui ont... Non, c'est une seule et même personne, d'une certaine façon. Les deux aspects, il faut les remettre ensemble. Mais il comprend maintenant que ça ne va pas marcher. Que ce n'est pas possible. Et donc, il dit, bon, j'ai compris, cette bénédiction, il fallait qu'elle arrive chez Yaakov. Et je suis d'accord qu'elle y reste. Alors, en passant, il y a quelque chose d'assez terrible ici. C'est que même si c'est pour une très très bonne raison, faire souffrir quelqu'un, ça se paye toujours. Ça se paye. Jacob a fait souffrir Ésaü en lui piquant les bénédictions. Alors toute la vie de Jacob après, c'est une vie de souffrance. Il va sans arrêt, il devient victime. Tu as victimisé Ésaü, tu vas devenir une victime aussi. Il commence par perdre tout l'argent qu'il avait. Eliphaz va tout lui prendre. Et il est obligé de payer ça parce que c'est le prix de sa vie. Et ça va donner l'ordre. Vous connaissez? Et ça va donner l'ordre à Eliphaz, son fils. Rattrape Jacob, qui s'est enfui, et tue-le. Eliphaz rattrape Jacob, qui est par ailleurs son maître, parce que Ésaü, quand il cherche un rebbe pour enseigner à son fils où il l'envoie chez tonton Jacob. Et donc Jacob, c'est son maître aussi à Eliphaz. Et alors, quand Eliphaz le rattrape, Jacob lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu pour te tuer. Alors, Jacob, bon, je sais pas, si j'avais écrit le scénario, j'aurais écrit que Jacob est bien plus fort qu'Eliphaz, et donc il va lui casser la figure, puis tout, c'est terminé. Mais c'est pas comme ça. Le vrai scénario, il n'a pas eu lieu comme ça. Jacob lui a dit, OK, je comprends, ça veut dire, tu peux pas désobéir à ton père. On est dans une civilisation, où le père peut demander n'importe quoi. Halakhiquement, d'après les lois de la Torah, on n'a absolument aucun problème à ne pas écouter un père qui vous dit d'aller tuer quelqu'un. Il n'y a pas de... Alors je sais que on peut aussi, ça va combien de temps ça va, on peut aussi se poser la question comment David il ordonne à Shlomo, tu as tué celui-là, tu tueras celui-là, n'oublie pas. Bon, ça, c'est un sujet. Mais en tout cas, il lui dit, tu sais bien, il y a beaucoup de formes de mort. On peut mourir physiquement, on peut mourir économiquement mort, socialement. Un pauvre, archi pauvre, il est économiquement mort. Quelqu'un qui est aveugle, socialement, il est un peu mort. Celui qui est Metsora, celui qui est frappé par cette fameuse lèpre qui fait qu'il est exclu de tous les Mahanot, de tous les camps du clan d'Israël. Il doit être tout seul. Lui, il est totalement socialement mort. Je lui dis, écoute, voilà, tue-moi économiquement. Donc, tu me dépouilles complètement et tu pourras dire à ton père que tu m'as tué. Et on voit nulle part que Ésaü ait grondé, disons, Eliphaz de ne pas l'avoir tué physiquement. Il a compris, ok, c'est bon. C'est une forme de mort. Donc Eliphaz s'est acquitté de ce que son père lui demandait sans tuer son maître. Et donc, voilà, il est complètement dépouillé. Il va arriver chez Laban, il va travailler 7 ans pour Rachel. On va lui donner Léa. Et ensuite, quand il va garder les troupeaux, les contrats changent sans arrêt. Et donc, comme il dit à Laban, si tu avais pu, tu m'aurais renvoyé, j'aurais travaillé toutes ces années pour rien. Etc. Ensuite, il y a le problème de Yosef. Les enfants, ses propres enfants le trompent. Il raconte des salades. Il raconte que Yosef a été tué par un animal, alors que c'est eux qui l'ont vendu. Donc, toute une suite d'épisodes va s'arracher les cheveux. Les malheurs qui frappent Jacob sont énormes. Et bon, ça, c'est Jacob lui-même. Mais les descendants de Jacob, des milliers d'années plus tard, au moment de Pourim, vous connaissez, quand Aman a pris le décret qui voulait dire qu'on allait effacer les Juifs de la surface de la terre, on s'est marqué que Mordechai, quand il a entendu ça, Isaac Zeaka Gdola Umara, il a poussé un cri énorme, amer, etc. Et les Chazal ont dit, il n'y a que deux endroits dans la Bible, dans le Tanakh, où il y a cette expression Zaka Gdola Umara. C'est ici, dans la bouche de Mordechai, et dans la bouche des sages. Et donc, évidemment, les Chazal ont dit, ce cri-là, c'est le prix que payent les descendants de Jacob pour avoir fait souffrir Esav. Donc c'est absolument terrible. Il fallait le faire, c'est important. Mais quelqu'un a souffert à cause de toi, ça se paye. C'est presque insupportable. Mais ça, c'est la question dont on avait déjà parlé. C'est l'histoire de Pnina et de Hana, la mère de Shmuel. Pnina est frappée, effectivement, punie terriblement pour avoir fait souffrir Hana, alors qu'elle le faisait pour pousser Hana dans ses derniers retranchements, pour que Hana sorte de ses entrailles quasiment la prière. Ce qu'elle a fait, et c'est une prière qui est telle qu'on prie encore aujourd'hui, comme Hana a inventé la prière. La prière, le mode de prière, de prier comme nous prions, on a un Amida, c'est Hana qui l'a inventé. Elle l'a inventé poussée par Pnina. Et Pnina va payer très 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 cher d'avoir fait souffrir Hana, alors qu'elle le faisait pour son bien. Et c'est, ça s'est avéré pour son bien.
Est-ce qu'on doit dire à partir du moment où il y a une action, c'est comme un passage obligé de faire souffrir l'autre pour le bien, pour, je sais que c'est interdit et qu'on est puni, mais est-ce que c'est pas en même temps la volonté d'Hachem, puisqu'elle ne pouvait pas faire autrement?
Oui. Oui, elle pouvait. Elle pouvait s'en fiche.
Non.
Tu n'as pas d'enfant, moi j'en ai. Très bien, on est deux femmes du même homme, donc notre homme, il a fait toutes les mitzvot d'avoir des enfants, etc. C'est très bien.
Vous savez aussi, je me suis de l'autre, donc je suis plus dans la Torah.
Non, mais elle se fiche. Elle ne se moque pas d'elle, mais elle peut très bien dire j'y peux rien.
Mais justement, elle a pu, et c'est un système qui a marché. Alors, ça pose des questions, ça.
Et c'est pour ça que j'en parle.
Oui, mais je n'ai pas la réponse.
La réponse, c'est, effectivement, si tu penses que tu dois le faire, tu vas le faire, mais sache que, quelque part, est-ce qu'il y avait un moyen, je ne sais pas l'inventer, mais est-ce que Pnina avait un autre moyen de pousser Hana à prier, comme elle a prié? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une prière que... On ne peut sortir que quand on est vraiment au 36e dessous, quoi. Il n'y a que dans cette situation-là qu'on peut inventer une autre façon de prier, d'accord, et accepter de prier de telle sorte que le Kohen Gadol, là, à l'époque, il la prend pour une souillon. Il lui dit, va cuver ton vin ailleurs, quoi.
Donc, le plus difficile, c'est être sûr que dans son action méchante, entre guillemets, il n'y a rien de personnel, que ce soit pour...
Bon, là, le problème, c'est que, si vous voulez, pour Pnina, je ne sais pas pourquoi elle est punie à ce niveau-là. Parce que Pnina, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui vivait au niveau de la Midat Hadin. Oui. Quand quelqu'un, Yitzhak, Yaakov, qui vit au niveau de la... Enfin, non, c'est Yitzhak qui vit au niveau de la Midat Hadin. Donc, bon, peut-être pour les Avot, on est plus sévère. Mais pourquoi on est tellement sévère pour Pnina, qui finalement, ce n'est pas une matriarche, c'est Madame Tout le Monde, hein, Pnina, c'est tout. C'est simplement une fille qui a compris que si je pousse, elle a compris que Hana avait cette grandeur d'être éventuellement capable d'invention, de, de, de dépassement complet pour ce qu'elle pour avoir un enfant, pour avoir cet enfant qu'elle.
Alors, tu veux nous permettre de nous dire quelque chose, mais Hachem fait ça toute la fin de journée. Il nous punit pour qu'on réagisse. Et des fois, ça fait mal.
Et non, mais le problème, c'est que lui qui devrait être puni alors.
Non, mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, il y a un chemin de passe et Hachem nous le montre. Il nous montre que c'est. Parce que finalement, il n'y a pas bien ou pas bien, il n'y a pas douloureux ou pas douloureux, il y a le chemin qui est possible pour faire la mitzvah qu'on doit faire, pour faire la volonté d'Hachem.
Non, mais là je ne crois pas que ce soit. Je ne crois pas que. Je n'entends pas comme ça, en tout cas. Pina, elle.
C'est une gentille Pnina, elle n'a jamais montré, d'après ce que je sais peut-être, elle n'a jamais montré.
Oui, d'après le texte, on voit très bien que, enfin, on ne sait pas, elle lui dit des choses qui font mal pour la faire réagir, parce qu'il pense, mais si vous voulez, c'est comme un chirurgien qui doit amputer quelqu'un, donc ça fait mal, mais bon, c'est lui sauver la vie.
Si on peut appliquer de là, moi, j'ai fait toute ma vie, enfin, et puis
ça donc c'est un clair, c'est clair que c'est un grand problème, mais c'est un problème ouvert, disons. On voit ça maintenant. Est-ce qu'on le comprend? Je ne sais pas.
Je crois qu'à un moment, on comprend ce que c'est que. Déjà,
non, mais quand c'était, encore une fois, quand c'est la Milatadine, alors je comprends qu'on ne comprend rien.
Oui.
Mais a priori, est-ce que c'est la Milatadine pour Pnina? Pourquoi elle n'a pas demandé à vivre à ce niveau-là?
Alors, est-ce que la Milatadine, je ne vais pas dire la même chose, mais c'est ce qui mène au Emet. Est-ce que la Milatadine et Emet, c'est.
Bon, ce n'est pas obligatoirement la même chose. C'est. Même le Emet, c'est aussi un problème. Qu'est-ce qui s'appelle le Emet? Jusqu'où on dit de Yaakov qu'il est riche Emet. Il a passé sa vie à mentir.
Pour le bien, si je
veux dire. Oui, d'accord, mais ce n'est pas le Emet.
Je suis en fait par un chiot que j'ai entendu et qui. Le rabbin Brook prévenir en faire le tour qu'il allait nous faire sauter un peu. Oui, d'après ce que j'ai retenu du tour, on peut mentir pour le Emet. Mais n'écoutez pas comment il le dit, c'est vrai que beaucoup. Mais dans son cours, c'était très respectueux de tout le monde.
Ce n'est pas partie des choses qui sont présentées comme les raisons de mentir. On peut mentir pour se l'embaïte, il y a des cas de figure où on peut mentir, où on doit mentir peut-être, pour amortir certaines choses, mais je n'ai pas entendu que, ça, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire mentir pour le MET?
Alors, il y a ce que le MET étant d'accéder au chemin qui permet de bien faire la mitzvah de Hachem.
Ouais,
il a bien dit que ce n'était pas la fin du système. C'était très
fin
et
j'ai besoin de réécrire. Possible. Oui, en tout cas, voilà. Parlez plus fort, parce que d'abord, en plus, eux, ils n'entendent sûrement rien, mais.
Pour se détacher de quelque chose de ce que vous voulez. Ce chemin qu'il a réussi à inventer, est-ce qu'on peut mettre en lien avec la vision qu'il a de l'État, avec le fait qu'elle, avec ça, elle n'aime que Yaakov et ça de notre côté, alors que dans la grandeur de l'État, il y a peut-être une attitude à Marie-Anne de Gaulle, une attitude presque.
Donc, Jean-Luc demande ici, est-ce que on peut dire que Yitzhak Il voulait inventer ou il inventait un chemin nouveau, en opposition à Rivka qui, elle, n'aime que Yaakov. Lui, il voulait réaliser, je sais pas comment il va le dire, il voulait réaliser cette collaboration, ce partenariat entre Yaakov et Sam. Dans l'idée, c'est ce qui doit arriver. On veut bien arriver à ça. Seulement, le camarade et Sam, il n'était pas d'accord. Et ça, Rivka le savait. Rivka le sait, pour Hakodesh, que Sam, c'est un bourri. Irréversible, je ne sais pas. Je ne dirais pas jusque-là, parce que on va, je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour, au retour de Yaakov de chez Lavan, Yaakov est allé chercher Esav, quelque part, on le lui reproche, il est allé à la rencontre d'Esav, alors que Esav, il était en train de passer son chemin. Et Yaakov, il est allé là-bas le provoquer, littéralement. Et il va présenter toute sa famille à Esav. Et bon, vous vous souvenez que Yaakov, il a une fille qui s'appelle Dina. Et il a caché Dina dans un coffre. Il voulait pas que Esav la voie. Il voulait pas qu'Esav la demande en mariage. Esav, il aurait pu proposer d'épouser sa nièce. C'était même permis d'après les lois de la Torah. Dina, c'est sa nièce, il peut l'épouser. Et Yaakov n'a pas voulu. Et il est puni. Il est puni. Et c'est le problème de le viol de Dina par la suite, d'accord, c'est la faute de Yaakov, qui n'a pas voulu qu'elle se marie avec quelqu'un qui est, d'accord, un père a priori souhaite pas que sa fille l'épouse Esav, mais on voit que comme Dina et Yosef, c'est un peu la même chose, pour des raisons que vous connaissez là, et que Yosef c'est celui dont Yaakov a dit: maintenant que Yosef est né, je peux aller affronter Esav. Alors Dina, on pense que Dina aurait pu faire tchouva à Esav. Et Yaakov n'a pas voulu. Donc, premièrement, on apprend là que, d'après ce chazal-là, Esav pouvait faire tchouva. Il fallait Dina, mais il pouvait. Donc, ça veut dire, quand vous dites irrécupérable, non, c'est pas irrécupérable.
Ça veut dire que Rivka, malgré son voir à Kodesh, malgré son intelligence, malgré l'audace du Rivka, elle aussi, elle a été.
Non, mais le problème, c'est aimer, c'est quand même quelque chose de bien précis. On peut se dire que la personne, elle pourra faire tchouva. Elle dit quelque chose quand même, parce que plusieurs fois, le pasouk dit. Quand il parle de Rivka, il dit la mère de Yaakov et d'Esav. Et après, elle dit à Yaakov, quand elle lui dit de partir parce qu'Esav risque de le tuer, elle lui dit: Lama Eshkol, pourquoi est-ce que je perdrais vous deux en même temps? Donc elle met quand même Esav aussi sur le même plan par rapport à la disparition égale. Si Esav. S'il lutte à mort, quoi, alors je risque de perdre tous les deux. Et donc on voit que Rivka, c'est pas qu'elle le considère pas comme son fils, mais là elle le considère comme un rachat. Donc ça veut dire elle sait bien que ça va pas marcher. Et ça pouvait pas marcher tel que Yitzhak le voulait.
Il n'est pas conforme au plan,
Non, mais il est un rachat maintenant, il est un rachat d'amour. Il est un assassin, adultère, tout ce que vous voulez, il cumule.
À un moment, est-ce qu'on peut dire, même si je n'aime pas, je dois pleurer parce qu'il va mourir.
Non, mais c'est pour ça qu'elle Elle dit que dans cette situation-là, et à ce moment-là, on ne dit pas qu'elle. C'est pas marqué qu'elle n'aimait pas. C'est marqué qu'elle n'aimait que Yaakov, positivement que Yaakov. Et on dit, le soir, on dit comme ça. Et par contre, lui, il lit que Yitzhak, il aimait aussi Esav. Les autres, ils lisent. Nous, on lit comme c'est marqué, semble-t-il, que Yitzhak n'aimait que Esav. Mais le Sforno, il dit, c'est pas comme ça. C'est sûr que Yitzhak, il aimait Yaakov. Il savait très bien qui était Yaakov. Seulement, il aimait aussi Esav. Ce que ne faisait pas. On peut très bien le reconnaître comme son fils, mais ne pas l'aimer au sens où on n'aime pas peut-être sa conduite ou ce qu'il est en ce moment. Il n'est pas vraiment aimable. Ça, ce problème est comment nous on entend. Qu'est-ce qu'on entend nous par aimer?
Il n'est pas juste pour le plan. Il est même nul pour le plan.
Il est négatif. Ouais. Voilà, on s'arrête là.